Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Chérie Cracher sur vos ondes, l'émission qui s'intéresse aux faits et objets de littérature sur syllabes. Ce soir, on n'est pas grand monde, en studio, un peu à distance. En tout cas, en studio, il y a moi Cécile et toi Sandrine, salut, comment ça va ?
Bah super bien, bonsoir à toutes et à tous.
Pour cette émission du 3 février, on vous a prévu en fait une carte blanche. Pas de film thématique, juste du plaisir pour nous les chroniqueuses. Mais avant de présenter plus en détail l'émission, je profite de ce micro pour rendre un tout petit hommage de rien à un monsieur qui nous a quittés ce 30 janvier 2021. Cet homme, c'est Michel Lebris. Certains connaissent ce nom pour les livres qui le portent sur les couvertures. Parmi les signés de sa plume, il y a la biographie de Stevenson, le roman La beauté du monde, l'autobiographie Nous ne sommes pas d'ici, ou le dictionnaire des amoureux et des explorateurs, ou encore le manifeste Nous sommes plus grands que nous. D'autres connaissent peut-être ce nom pour d'autres livres, pas de son fait de plume mais de son fait d'éditeur, que ce soit aux éditions Phébus, Payot, La Table Ronde. Alors, peut-être que vous connaissez son mouvement des écrivains voyageurs, puisque c'est celui-là même qui sera au cœur de la création du Festival des Autonoms Voyageurs de Saint-Malo en 1990. Pour ma part, c'est dans ce même studio où je me trouve aujourd'hui que je l'avais découvert et rencontré, pour parler de ce fameux festival et de ce qu'il avait animé dans sa fondation. Voilà un court extrait de ce qu'il en disait en 2017.
Moi, j'avais le sentiment que la littérature n'est jamais aussi puissante et nécessaire que lorsqu'elle entre dans un rapport d'incandescence avec le monde, et que c'est d'autant plus urgent lorsque un monde disparaît, qu'un autre arrive, parce que ce sont les artistes qui disent d'abord l'inconnu du monde qui vient. J'ai connu 68, évidemment, et le fameux éditorial de Vincent Pontet disant quelques jours, quelques semaines avant « La France s'ennuie », il valait mieux écouter Bob Dylan pour savoir ce qui se passait, ce qui agitait l'esprit de la jeunesse. C'était ça qui m'intéressait. Capter la parole vive du monde à travers ce qu'en disaient les écrivains. Et pour ça, il fallait presque une petite révolution en France. Il fallait oser s'affronter à Saint-Germain-des-Prés, en gros. Et Saint-Malo, ça a été le rêve un peu dingo. On se disait, on va encercler Saint-Germain par le reste du monde. Et quand j'appelais Jim Harrison, j'appelais Crumley, j'appelais Alvaro Mutis, etc., ils disaient, oui, pas de problème, on vient. Parce qu'il y avait l'envie de défendre une même idée de la littérature, en fait. Et c'est à cette idée qu'on essaie de rester fidèle 27 ans après.
Dans son dernier livre, Pour l'amour des livres, publié chez Grasset en 2019, Michel Lebris rendait hommage aux mots et aux œuvres qui s'y misent en nos vies jusqu'à en faire partie. Et il rappelait le caractère autant vital que salvateur de la littérature. Alors, merci à lui et bon vent. Est-ce que toi, Sandrine, tu vas nous parler d'une autrice ou d'une œuvre qui capte ce rapport avec le monde ?
Ouais, tout à fait. En fait, moi, j'ai très envie de parler de Sophie Kahl. Et merci beaucoup pour ce bel hommage à Michel Lebris. Et ouais, effectivement, moi, je vais embarquer, si je puis dire, pour utiliser cette métaphore ou cette image en rapport avec Étonnant Voyageur. Embarquons-nous pour écouter quelques mots de Sophie Kahl. Alors, tout d'abord, moi, effectivement, j'ai très envie de vous parler de cet artiste parce que je l'aime beaucoup. Et cette émission est effectivement un espace de liberté. On en profite. Un écrin pour présenter les livres qui nous sont chers. Les ouvrages qui sont importants dans notre vie. Alors oui, j'en profite abondamment. Et je partage avec vous mon amour, mon admiration pour cette femme plasticienne, femme de lettres, photographe, autrice, réalisatrice française, la sublime Sophie Kahl. Sans aucun doute, faire une chronique sur le roman Térébenthine de Carol Five il y a quelques semaines, ça a été un vrai tremplin pour parler d'elle. Et voilà, j'ai envie simplement de m'ouvrir et laisser transparaître ma passion pour l'art, et en particulier pour cette femme. Alors faire de sa vie une œuvre, c'est son credo, son leitmotiv quotidien. Son travail de photographe est un support narratif de son existence et celle d'autres personnes, connues ou inconnues. Figure incontournable de l'art contemporain, elle fascine et propose des œuvres quasi autobiographiques. Les mots, les phrases deviennent des interprétations d'une sensibilité puissante et déterminée. Le texte est une œuvre à part entière où se mêle la création d'une intimité de vie dévoilée pour être conceptuelle et littéraire. Elle propulse son génie créatif et personnel dans la sphère publique. Et c'est tant mieux pour nous, car nous avons ainsi le bonheur sublime de la découvrir alors qu'elle se dévoile, se donne à nous. Une réciprocité de partage, de sensibilité et d'enrichissement émotionnel. Mais après tout, n'est-ce pas cela la force de l'art ? Alors qui est Sophie Calle ? Voici quelques éléments d'une biographie non exhaustive, je précise, et hyper sélective. Professeure de cinéma et de photographie, elle est née à Paname en 1953. Elle s'engage dans des groupes militants, voyage beaucoup pendant 7 années et se met à la photographie pour garder en mémoire les gens qu'elle suit au détour des rues. La vie des autres remplit la sienne et le processus créatif se met en route. Sa finesse d'observation devient le zoom de son identité artistique. Son regard se pose avec liberté, comme un chant du « tout est possible », un affranchissement de soi-même et une aisance à parler des autres avec élégance. Elle dit « je raconte des histoires ». En 1979, elle invite des inconnus à la rejoindre dans son lit. Je cite « Je voulais que mon lit soit occupé 24 heures sur 24, comme ces usines où on ne met jamais la clé sous la porte. J'ai donc demandé aux gens de se succéder toutes les 8 heures pendant 8 jours. Je prenais une photographie toutes les heures. Je regardais dormir mes invités. » Les dormeurs, création photographique, interpellent et s'inscrivent dans une contemplation des rituels propres à chacune et chacun, à un journal intime du passage de leur vie dans la sienne. Peut-être, à mon sens, une métaphore de la solitude contemporaine, ou comment remplir le vide d'amour, peut-être. Bon, au détour de rue, dans sa vie ordinaire, elle se met à suivre un inconnu. Est-ce par jeu, par défi, par attirance, par ennui ? Partons de suite découvrir un extrait de texte. Depuis des mois, je suivais des inconnus dans la rue, pour le plaisir de les suivre et non parce qu'ils m'intéressaient. Je les photographiais à leur insu, notais leurs déplacements, puis finalement les perdais de vue et les oubliais. Mardi 14 novembre, aujourd'hui à Beaubourg, je tournais autour d'un jeune homme avec le désir de faire sa connaissance. Il ne m'aide absolument pas. Je pourrais le suivre, transformer ma filature en moyen de rencontre ou même de séduction par l'étrange. Mais je résiste à la tentation. Je ne connaîtrai pas ce jeune homme, je ne suivrai que des inconnus, dont je découvrirai peut-être certaines de leurs habitudes, mais qui doivent rester des inconnus. Je suis les gens sans aucun autre motif que celui de les suivre. Je suis pour suivre. De moi, ils ne savent ni ne sauront rien. Et eux ne sauraient être autre chose que des suivis. Eh bien, quel est donc le livre que je cite et dont je vous parle ? Eh bien, en fait, il s'agit d'un ouvrage qui ressemble à un carnet. La couverture est orange, épaisse, très agréable et douce à toucher, paru aux éditions Actes Sud et réédité en 2019, dont le titre, à suivre, recense eh bien, 4 expériences, 4 performances de l'artiste, préambule, suite vénitienne, la filature et 20 ans après. Attardons-nous sur suite vénitienne. Son désir de suivre un inconnu encore et toujours la conduira jusqu'à Venise. Et de là naîtra une œuvre clé en 1980. Suite vénitienne.
À la fin du mois de janvier 1980, dans les rues de Paris, j'ai suivi un homme dont j'ai perdu la trace quelques minutes plus tard dans la foule. Le soir même, tout à fait par hasard, lors d'une réception, il me fut présenté. Au cours de la conversation, il me fit part de son projet imminent de voyage à Venise. Je décidai alors de m'attacher à ses pas, de le suivre.
Lundi 11 février 1980, 22h, gare de Lyon, quai H, départ du train en direction de Venise. Mon père m'accompagne jusqu'à la plateforme, il agite la main. Dans ma valise, un nécessaire de maquillage qui m'aidera à modifier ma physionomie, une perruque blonde coupée au carré, des chapeaux, voilettes, gants, lunettes noires, un Leica et un squintard. Cet accessoire qui se vit sur l'objectif est muni d'un jeu de miroir permettant de prendre des photos de côté sans viser le sujet. Je photographie les occupants des autres couchettes et je m'endors. Demain, je verrai Venise pour la première fois.
Mardi 12 février, midi 52. Arrivé en gare de Venise, l'hôtel qui m'a été conseillé, c'est à Locanda Montine, dans le quartier de l'Académie. Je m'y rends. Je n'ai pas pris la peine de coiffer ma perruque. Je ne suis pas maquillée.
Je ne crois pas suffisamment à la présence d'Henri B dans cette ville. 13h35, on me donne la chambre numéro 1. 15h, je marche au hasard des rues. Au cours de notre conversation sur Venise, Henri B avait évoqué un hôtel, le San Bernardino. Sur la liste que je me suis procurée en chemin, je ne trouve pas de San Bernardino. Cela ne me surprend pas. Il existe un San Giorgio, un San Stefano. Arrivé plein Samar, je m'assieds contre une colonne, je regarde. Je me vois aux portes d'un labyrinthe, prête à me perdre dans la ville et dans cette histoire. Soumise. 20h, je regagne la Lancada Mountain et dîne seule au restaurant situé au rez-de-chaussée. Puis je me couche.
Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est l'absence de frontières entre le réel et l'imaginaire. Cela, c'est une part incroyable et participe à favoriser des rêveries par résonance. Ça me touche beaucoup et j'apprécie cet univers entre fantasmes conscients et inconscients. Nous ne savons jamais ce qui est vérité. La beauté du livre tient à la maîtrise parfaite entre l'association de texte et la photo. Cela constituera son identité puisque dans ses expositions, dans différents musées et galeries, ce procédé sera la double lecture du travail de Sophie Kahl. Nous sommes ici dans une forme d'enquête dont les contours demeurent flous, mais terriblement bien menés, à la fois sujet d'investigation et objet d'observation. Un regard neuf, original, créatif et excessivement émouvant. Après tout, l'idée majeure n'est-elle pas l'amour et comment l'appréhender ?
Mercredi 13 février, 11h. Je porte un imperméable beige, un foulard et des lunettes noires. Je me rends à la Questura, le commissariat principal. J'entre dans le bureau où sont classées les fiches de police qu'envoient les hôteliers. Un fonctionnaire me reçoit. J'explique que j'ai perdu le nom et l'adresse de l'hôtel où séjourne un de mes amis. Je me prétends désemparé. L'employé ne peut pas m'aider. Il est interdit de communiquer au public cette information. Il me conseille d'aller au bureau des réservations de la gare. Pourquoi n'ai-je pas l'audace de le soudoyer ? Midi 30, la gare. Refus identique. On me renvoie à la Questura. 13h30, plein Samar. Durant des heures, j'attends, assis sur un banc du palais des Doges, caché par une colonne. Je guette sa silhouette. Avec une constance opiniâtre, un homme et une femme se photographient l'un l'autre devant moi. Un jeune homme accompagné d'une chaîne me remarque et m'adresse la parole. Il s'appelle Pino. Elle, c'est Chocolata. Pino est vénitien. Il fait des caricatures qu'il vend aux touristes. L'année dernière, il est resté 2 jours perché sur le rebord du campanile de la place Saint-Marc. Nous partons en promenade. Il fait signe à tous les policiers que nous rencontrons. Il précise qu'il connaît intimement la fille du chef de police. Je raconte que j'ai perdu un ami. Il dit qu'il m'aidera à le retrouver. Ému par mon apparente timidité et les innombrables maladresses que je commets dans sa langue, Pino accepte d'appeler pour moi certains hôtels pour demander si Monsieur Henri B s'y trouve. Je choisis sur ma liste des hôtels dont le nom se rapproche le plus de San Bernardino. Il n'y a pas d'Henri B au San Giorgio, ni au San Stefano. Le San Bartolomeo est fermé. Je ne connais ni les goûts, ni les moyens d'Henri B. J'appellerai un par un, sans exception, les hôtels de Venise. Je remercie Pino. Nous nous reverrons peut-être demain. Je regagne Lancada Mountain et dîne seule. 21h. Ce soir, c'est ma première sortie en blonde. Un homme me suit sur une dizaine de minutes, mais il n'ose pas m'aborder. Je me glisse dans les rues. Une crainte me saisit. Il m'a reconnu. Il me suit, il sait. Je vais au Harris Bar, je prends un whisky et à 23h, je regagne mon hôtel.
Jeudi 14 février, 12h, déjeuner avec Annalisa G et Luciana C, vénitienne, qu'une amie commune m'a conseillé de contacter. Je leur confie le motif de mon voyage. Elles veulent m'aider et mettre leur téléphone à ma disposition. 15h, je les quitte. Je coiffe la perruque que désormais je ne quitterai plus et pars à la recherche d'Henri B dans les rues. Je me demande s'il est riche. J'entre dans les palaces. Avez-vous un client qui se nomme Henri B ? Au Savoia, au Cavaletto, au Londra, au Dianelli, au San Marco ? La réponse est négative. Je sais si peu de choses de lui. Simplement qu'il aura eu de la pluie et du brouillard les premiers jours, qu'il a maintenant du soleil et qu'il n'est jamais où je le cherche. Il m'envahit. 4h s'écoulent, puis je renonce. 20h. Dîner avec Luciana C. au restaurant Le Méliane. Pour m'exercer tout en visant mon ami, je photographie, à l'aide du squintard, trois hommes sur ma droite. Le jour où Henri B sera là devant moi, songerai-je à le photographier ainsi, en regardant ailleurs? Je ne crois pas. Minuit. Depuis le pont de l'Académie, je crie son nom. Je regagne ensuite mon hôtel. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, on m'a appelée Belle Blonde. En 1980, la carrière artistique de Sophie Calle connaît un élan mérité et sa participation à la Biennale de Paris permet enfin une reconnaissance déterminante dans sa carrière. Les œuvres clés majeures seront Chambre avec vue en 2003, Prenez soin de vous en 2007. Les thématiques du manque, de l'absence sont puissamment vivantes. Ces blessures, ces douleurs, dont naturellement et sont naturellement des sources d'inspiration où chacune et chacun d'entre nous peut alors s'identifier et en être apaisé. Je voudrais partager avec vous un morceau composé à la suite de la mort de son chat en 2014, dont le prénom est Souris. Oui, ça fait sourire. Après avoir vécu 17 ans à ses côtés, Sophie Calle a alors proposé à une quarantaine de musiciens et de chanteurs français, étrangers, de composer une chanson pour lui rendre hommage. Alors parmi lesquels, Asseyez-vous, Lou Doyon, Feu Chatterton, Alex Baupin, Laurie Anderson, Jeanne Chéral, Christophe, Pharrell Williams, Brigitte, Karen Anne, Miossec et tant d'autres. À la Galerie Perrotin à Paris, le clip appelé Souris Calle, a été diffusé ainsi que les musiques de l'album. Une manière de faire de sa douleur une œuvre, de l'exorciser. Un exutoire créatif qui dessine un désir de parler de la mort, du deuil, de l'être aimé et de rendre aussi grâce à la beauté de la vie. Ce thème de la perte avait déjà été exprimé dans l'exposition « Douleur exquise » en 1984. Puis donc en 2017 avec « Prenez soin de vous » avec la réalité de la séparation. Eh bien, quand l'intime devient peut-être exercice de réparation, lorsqu'il est partagé et touche de manière universelle notre réalité. De quoi donner à réfléchir. Allez, je vous propose d'écouter l'exquise douceur de Juliette Armanet avec Cool Cat, issu évidemment de l'album Souris Cat. À bientôt, je vous embrasse. Comme un chien, je cool. On s'aimait comme un chien, je cool.
Vous venez d'écouter Juliette Armanet avec Cool Cat. Vous êtes bien sur Syllab dans J'irai cracher sur vos ondes, l'émission qui parle de tout ce qui touche à la littérature, et on va écouter la chronique de Clara.
Bonsoir à tous nos auditeurs. Le livre dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est « Comment peut-on encore être une femme » de Caitlin Moran. Née en 1975, Caitlin Moran est une journaliste britannique, chroniqueuse et critique télé pour le Times. Elle a d'ailleurs reçu en 2010 le prix British Press Award, qui est le prix décerné au meilleur chroniqueur de l'année. Bon, pour ma part, je ne recevrai pas le prix du meilleur accent anglais, mais passons. Donc en 2011, Caitlin Moran publie son deuxième livre « Comment peut-on encore être une femme ?», qui est élu meilleur livre de l'année au Galaxy National Book Awards. Ce livre, sorte de coup de gueule de la part de l'auteur, est écrit sous forme de récit de vie. Elle raconte sa vie en tant que femme, de ses 13 ans jusqu'à ses 35 ans environ. Ça nous laisse donc un aperçu global de sa vie à partir du début de l'adolescence et des prémices de la puberté, jusqu'à l'âge adulte. Dans son livre, elle aborde une multitude de sujets qui touchent la vie d'une femme, passant par les premières règles, la pilosité, le rapport à son corps en général, sans oublier le sexisme au travail ou encore le fait de se marier ou d'avoir des enfants. Alors, avant de rentrer dans les détails, parlons de l'ambiance générale de ce livre. Lorsqu'on lit la quatrième de couverture, on remarque tout de suite que le propos est considéré comme féministe. Et je mets des guillemets sur ce mot parce que le féminisme c'est très vague, et on s'en fait une idée peut-être un peu détournée de son sens premier. C'est un mot sur lequel je mets des guillemets, parce qu'on peut avoir l'impression qu'un certain nombre de personnes ont une idée un peu péjorative de ce mot, ou du moins, qu'il enfouit tout un tas de préjugés. Je mets des guillemets sur ce mot, parce que c'est parfois un gros mot qui fait un peu peur, mais c'est un mot qui en fait nous touche toutes et tous. Je vais d'ailleurs vous lire rapidement cette fameuse quatrième de couverture, ce qui sera, je pense, une bonne manière pour vous, auditeurs et auditrices, de vous plonger plus avant dans cette chronique. Il n'a jamais été aussi facile d'être une femme. On a le droit de vote, la pilule, et depuis 1727, personne ne nous a fait de procès pour sorcellerie. Cependant, quelques questions agaçantes persistent. Pourquoi doit-on se faire épiler le maillot anti-cas de métro? Quelle position adopter face au botox? Est-ce que les hommes nous haïssent secrètement? Pourquoi les soutiens-gorges font si mal? Et pourquoi tout le monde veut savoir quand on fera un bébé? Moitié mémoire, moitié coup de gueule, comment peut-on encore être une femme répond à ces questions, tout en nous racontant l'adolescence, le boulot, les strip clubs, l'amour, les kilos en trop, le shopping, l'avortement, la maternité et bien plus encore. Alors, la première fois que j'ai lu ce livre, j'ai eu du mal à ne pas le lire d'une traite. Le style est simple à appréhender, le récit est prenant, malgré la profondeur des débats qu'il amène. C'est assez paradoxal dans le sens où cette lecture est apaisante, tout en poussant à la réflexion. Si vous cherchez un livre qui peint des sujets très actuels, voire quelque peu polémiques, en les colorant d'un ton léger et nuancé par un humour subtil, je vous conseille d'ouvrir celui-ci. Vous aurez probablement l'agréable sentiment qu'il s'agit de votre meilleure amie qui vous parle et qui vous raconte les anecdotes de sa vie, en vous faisant réfléchir avec elle à ces différentes thématiques. Par ailleurs, ce livre est une véritable mine de références issues de la pop culture britannique, ce qui nous aide en tant que lecteur à voir des images précises de ce dont il est question. Alors je vous propose pour illustrer tout ça, la lecture d'un petit extrait de la première scène de ce livre. Je cours comme une dératée. Mon souffle se bloque dans ma gorge comme du vomi. Cette scène, je l'ai déjà vue dans des documentaires animaliers. La suite, je la connais par cœur. Mon rôle est clairement celui de la faible antilope séparée de son troupeau. Les petites frappes, ce sont les lions. Ça finit toujours mal pour l'antilope. Bientôt, je serai à leur déjeuner. Je porte des bottes Wellington, les lunettes fournies par la santé publique me font la tête d'Alan Bennett, et le manteau militaire de mon père semble tout droit sorti de la penderie de Whitenail. Je n'ai pas, il faut bien l'admettre, une allure des plus féminines. Diana, la princesse de Galles, est féminine. Kylie Minogue est féminine. Moi, je suis... féminule. Je peux comprendre la perplexité de ces casse-bonbons. Ils n'ont pas l'air d'avoir poussé beaucoup les recherches A. en iconographie de la contre-culture, ni B. sur l'imagerie ô combien stimulante des androgynes extrêmes. Une des choses que j'ai appréciées dans ce livre, et qui soit dès la première scène dont je vous ai lu un extrait, c'est la manière dont Caitlin Moran aborde les événements. On commence avec une jeune fille de 13 ans pour qui la féminité est celle que lui renvoient les célébrités, par exemple. L'adjectif qu'elle construit dans cette scène, « féminule », est révélateur de ce qu'elle pouvait ressentir en constatant qu'elle ne correspondait pas à l'image de la femme qu'elle pouvait voir à la télévision, en couverture de magazine, etc. Pour la jeune fille qu'elle est au début du livre, la féminité, ça semble être quelque chose qui va de soi, mais aussi quelque chose qui n'a qu'une seule définition. Rien que dans les premières pages, lorsqu'elle se retrouve confrontée à l'apparition de sa puberté, on peut prendre l'exemple des premières règles, qui sont un passage obligé pour chaque femme, mais dont elle n'avait jamais entendu parler avant. Et ce qui est pertinent dans ce passage, c'est toute la dimension selon laquelle, par exemple, souffrir serait normal. Alors, attention, je suis pas là pour débattre de si oui ou non c'est un moment forcément douloureux, Mais ce qui peut faire réfléchir à ce sujet, c'est le fait que, selon les femmes de sa famille, donc à savoir sa mère, ses sœurs, cette douleur est normale alors que personne n'est capable de lui expliquer pourquoi. Ça ne parle probablement pas à une partie de nos auditeurs et j'en suis consciente, mais voilà, tout ça pour vous dire que ce sont de petites choses de ce genre qui pour elles sont considérées comme allant de soi et universellement vraies alors qu'il n'y a personne pour donner la moindre raison à tout ça. La narratrice explique, je cite, « Comme lorsqu'on gagne à la loterie, qu'on devient subitement célèbre, il n'y a pas de mode d'emploi pour devenir une femme, si important que soient les enjeux. Dieu sait si à 13 ans j'ai essayé d'en trouver un. » On peut lire l'avis des autres sur le sujet, comme on révise un examen. Mais cette approche n'apparaît en elle-même problématique. Ce court extrait résume donc le problème du manque d'informations pour les femmes, et plus particulièrement pour les adolescentes. Un deuxième passage intéressant au début du livre, c'est le moment où commence une forme de bataille contre sa pilosité. C'est un sujet qui porte beaucoup à débat encore à l'heure actuelle, mais imaginez cette fille de 13 ans qui se dit en 1988 la phrase suivante « Je vais voler le rasoir de papa pour m'embellir ». Alors même que sa puberté vient à peine de commencer, et ça il faut pas l'oublier. Ça peut paraître très engagé quand je vous présente les choses de cette manière, et d'un côté, ça l'est. Pourtant, ce livre garde de la légèreté dans ses propos. Ça reste donc une lecture malgré tout agréable et à laquelle on accroche rapidement. Alors, outre le côté féministe qu'elle autrise dans son œuvre, on a toute une thématique sur l'adolescence, sur le rapport des individus à leur corps qui court tout au long du livre. Kathleen Moran écrit « Mais lutter contre soi-même est une guerre perdue d'avance. Il arrive toujours un moment où, épuisée et couverte de blessures, on finit par accepter que l'on doit devenir une femme. Que l'on en est une, sans quoi c'est la mort. C'est la vérité brute, fondamentale. L'adolescence n'est souvent qu'une longue et douloureuse guerre d'usure. » Alors, je vous ai dit plus tôt que Kathleen Moran aborde le féminisme dans son livre. Eh bien, 2 ans après les événements de l'extrait que je viens de vous lire, elle prononce pour la première fois cette fameuse phrase « Je suis féministe ». Ce qui m'a semblé intéressant dans son approche, et ce pourquoi je vous en parle ce soir, c'est qu'on ne se retrouve pas avec ce fameux « men or trash » prononcé par bon nombre de féministes. Ici, on a le côté égalitaire qui prend une place très importante. Le fait que le féminisme, c'est tout d'abord la volonté de dire « chacun se doit de respecter les autres, et ce, quel que soit son genre ». C'est cette idée qui se dégage derrière sa phrase, je cite « Quand on est con, peu importe de quel côté on fait la queue pour aller aux toilettes ». Bon, j'arrête de vous bassiner avec cet aspect du livre et je vous laisserai découvrir le reste de la réflexion de l'autrice plus en détail, que ce soit dans ce livre ou dans ses autres publications. Parce que oui, ce livre ne traite pas que de femmes réclamant d'être traitées avec autant de respect que leurs homologues masculins. Donc pour finir cette chronique, j'aimerais insister rapidement sur un point qui a été abordé par ce livre, qui est la littérature. Dans son enfance, Kathleen Moran a eu peu, voire pas du tout, d'amis. Ça lui a permis de prendre le temps d'écrire à 15 ans son premier roman, mais ça a aussi été pour elle l'occasion de découvrir de manière plus générale le pouvoir du livre. Un livre, c'est un univers à lui seul, et les livres sont aussi différents que les gens. D'ailleurs, de la même manière que ce n'est pas parce qu'on n'apprécie pas une personne en particulier qu'on n'appréciera personne d'autre, et on peut finir par trouver une lecture qui nous plaise. Finalement, Kathleen Moran s'est trouvée des amis au creux des pages qu'elle a lues. Je vous lis tout de suite un petit extrait dont elle parle. L'avantage, cependant, c'est que je ne suis jamais seule parce que, comme un million de garçons et de filles solitaires avant moi, je peux compter sur les livres, la télé et la musique pour s'occuper de moi à présent. Je m'aperçois que chaque œuvre d'art représente une personne qui essaye de vous dire quelque chose. Ce qui fait des milliers de personnes prêtes à me parler, pour peu que j'ouvre leurs livres ou regarde leur émission. Les livres représentent la source la plus puissante, chacun étant la somme d'une vie, inhalable en une seule journée. Je lis vite, si bien que j'aspire toutes ces existences à un rythme féroce, 6, 7, 8 par semaine. J'aime particulièrement les autobiographies, qui me permettent d'engloutir une personne entière avant le coucher du soleil. Or, chaque livre a son propre cercle d'amis qu'il souhaite vous présenter, comme si la bibliothèque était le théâtre d'une fête permanente. Cette image du livre que propose Kathleen Moran me semble tout à fait appropriée à ce qu'est une partie de la littérature. C'est tout un univers qui s'ouvre en même temps que le livre et au fond, la littérature regorge de connaissances de soi, des autres, du monde. Bon, cette chronique commence un peu à durer, alors je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse ce soir avec une dernière phrase qui est que la lecture, même si elle peut parfois alléger le portefeuille, permet toujours de s'enrichir l'esprit. You can go to Harvard. You can be a pilot. You can be an astronaut. But first, be a woman. Ooh. 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 Yeah.
important to be real. You were born to be yourself, so no matter how you feel, if you want to impress, be the opposite sex. When he takes you for a ride, let him open you the door. When he asks you for a dance, let him lead you to the floor. When he kisses you goodnight, and you just leave him wanting more. You can do all you can, say I am what I am, but first be a woman. And his passion can be like all the stories that you've read. He can be Romeo if you act like Juliet. Nowadays it ends too soon, even though it's just begun. You can take him to the moon, he'll leave you with the morning sun. So take a lesson from the past, make him want and make him run. You can do all you can, say I am what I am, but first be a woman. So I try to be alive when it's only self-defense. You've got grace, he's got style, and together you're rhyme. So remember to be true to the legend that you are. All the feminine in you has worked miracles so far. So head up high and don't be shy, you can reach for any star. You can do all you can, say I am what I am, but first be a woman.
C'était First Be a Woman de Gloria Gaynor. Vous êtes sur Syllab dans J'irai cracher sur vos ondes. Et on va s'écouter un flash info préparé par Agathe.
Bonjour à tous, on l'a appris hier, Gabrielle Matzneff compte publier son ultime livre s'intitulant Vanessa Virus. Ce livre serait une réponse au consentement de Vanessa Springora. La jeune femme l'accuse d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était adolescente. Suite à ce scandale, aucun éditeur ne souhaite publier le nouveau livre de l'écrivain. Celui-ci sera donc lancé grâce à un système de crowdfunding. Les éditions de l'Écrou, maison d'édition spécialisée dans la poésie urbaine, a annoncé lundi que leurs deux prochaines publications seraient les dernières. La maison d'édition québécoise aura publié une quarantaine de titres durant ses 12 ans d'existence. Jean d'Ormesson, à sa mort en 2017, avait laissé un siège vide à l'Académie française. Le vide est comblé depuis jeudi. C'est l'écrivaine Chantal Thomas qui s'installera sur le fauteuil numéro 12. Elle est la 10e femme à faire son entrée sous la coupole, élue à 12 voix sur 24. Sa disparition avait agité les réseaux sociaux et sa réapparition également. L'étudiante sénégalaise Diary Sow, portée disparue depuis le 3 janvier 2021, est réapparue au Sénégal vendredi, mais ce n'est pas tout. La jeune femme a aussi dévoilé lundi sur son Instagram le trailer de son prochain livre. Comment j'ai séquestré Kim Kardashian, c'est le titre du livre qui paraîtra demain aux éditions de l'Archipel. L'auteur s'appelle Younis Abbas, il s'était introduit dans la maison de la star américaine en 2016, puis l'avait séquestré et lui avait volé ses bijoux. Enfin, si vous comptiez envoyer votre manuscrit à un éditeur, il serait peut-être plus sage d'attendre. Les maisons d'édition ont constaté depuis l'automne une augmentation de 20 à 30% de manuscrits. Cette hausse est due au premier confinement qui a permis aux Français de trouver le temps d'écrire.
Merci Agathe pour toutes ces infos. Vous êtes sur Syllab, toujours dans J'irai cracher sur vos ondes, où on vous parle de tout ce qui touche, de près ou de loin, à la littérature. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma dernière lecture, un livre de Kay Tempest qui s'appelle On Connection. J'ai découvert auparavant Kay Tempest avec son album Let Them Eat Chaos qui est sorti en 2016. Son premier album en 2014 s'appelait Everybody Down et son dernier album, The Book of Traps and Lessons, est sorti lui en 2019. Mais Kay Tempest a aussi écrit du théâtre, un roman et surtout de la poésie, beaucoup de poésie. Ce qui est assez visible quand on écoute ses albums. Alors oui, tout ça est majoritairement en anglais, mais pour ceux d'entre vous qui préfèrent le français, certaines de ses productions ont été traduites. Son roman, par exemple, The Bricks That Built the Houses, Écoute la ville tomber, ou un de ses recueils de poésie, Brand New Ancients, Les Nouveaux Anciens en français. Pour son travail, elle a été nominée et a gagné plusieurs prix, en plus d'une fanbase assez solide, parce qu'elle arrive à créer assez magiquement un lien entre elle et son public. Et justement, l'œuvre dont je vais vous parler s'appelle On Connection. Il a été publié en octobre 2020. C'est sa première œuvre non fictionnelle. Entre l'essai et l'écrit autobiographique, Kay tire de ses expériences une certaine vision de la créativité et de son utilité, de ses pouvoirs. Le livre est assez court, il est découpé en 6 parties et pour l'instant n'a pas été traduit. Les extraits que vous entendrez seront donc basés sur ma propre traduction et ne font pas forcément honneur à la musicalité de l'écriture de Kay. Alors dans ce livre, la créativité n'y est pas limitée à l'art. Elle peut se percevoir dans n'importe quelle situation, tant que cette situation est abordée sous un certain angle, dans un certain état d'esprit. Alors je préfère le dire, pour beaucoup, vous n'apprendrez rien de nouveau, mais vous serez peut-être amené à ressentir et à percevoir avec force des choses que vous connaissez déjà et qui pourront potentiellement vous apaiser. Kay Tempest explore énormément de chemins différents à partir d'une interrogation sur, je cite, « la distance entre ce que l'on est et ce que l'on voudrait être, la distance entre nous et nous-mêmes, la distance entre nous et les autres ». Elle s'intéresse surtout à ce « you that's in everyone else », le sujet qui serait en nous tous, ce sujet en chacun de nous pour qui l'anesthésie est requise. Pour Tempest, l'anesthésie, la numbness, la torpeur, l'engourdissement, est une réponse logique aux assauts de notre époque. L'anesthésie est nécessaire pour survivre. Binge watch, binge drink, binge eat, oblivion. Alors, Tempest ne propose pas de solution toute faite, mais elle tente de voir dans sa vie, ce qui lui permet de combattre l'anesthésie. Et pour elle, on est tous concernés. Parce que, je cite, « être dans une position où il est possible d'ignorer la réalité de ce que le système fait et continue à faire, c'est en être complètement complice. C'est en bénéficier largement. Être capable de ne pas penser à la manière dont les gagnants de ce jeu ont acquis leur vaste réserve de richesses, c'est profiter de ces richesses. » La longue liste de pays saccagés, de dictatures installées, d'insurrections financées par des intérêts privés, de corps emprisonnés, de terres détruites, la mort, la maladie et des pipelines. Être capable de faire abstraction des inégalités dans ta propre ville, c'est profiter de ces inégalités. La criminalisation des corps noirs par un État institutionnellement raciste. Le recours grandissant aux banques alimentaires. Les familles vivant toujours dans des logements temporaires des années après une catastrophe. Ne pas penser. Je ne veux pas penser. Je suis coincée dans mes habitudes et rien n'est réel que l'espace infini et je ne peux pas bouger et je ne peux pas m'arrêter de bouger.
Ils m'ont retiré des heures de taf. Maintenant, je ne peux pas payer le loyer et j'attends toujours une réponse du conseil municipal. Et je m'en sors grâce à l'aide de mes amis, mais ça ne durera pas. Je ne ressens rien. Je suis quelqu'un de bien. Je prends du temps pour discuter avec mes amis au cœur brisé. Je leur donne mes meilleurs conseils. Je fais ce que je peux pour ma famille. Je leur rends tout le temps visite. Je ne fais pas de blagues inappropriées. Les enfants m'adorent. Les animaux aussi. Je n'oublie pas de continuer à flirter avec mon mari. J'achète des bijoux à ma femme pour Noël. Je ne ressens rien. Ce système a besoin de ta torpeur. Tu es un consommateur. Tu n'as pas d'autre utilité aux yeux de ton gouvernement. Tu n'es rien. De la graisse pour une machine dont le fonctionnement repose sur ta complicité et ton adaptabilité enthousiaste. On t'a fait croire que tu étais la graine d'un futur prometteur, radieux, et que tout ce que tu as à faire pour vivre la meilleure vie possible, c'est de gagner la compétition. Gagner. Consommer. Tu es un consommateur, et tes parents étaient des consommateurs, et tes grands-parents étaient des consommateurs, et tes enfants seront des consommateurs. Voilà ton héritage. Depuis les Lumières, ce siècle sanctifié par la soif de sang européenne, qui a colporté sa vanité et propagé sa propre mythologie dans nos écoles et nos manuels et nos écrans de télévision pour se faire passer pour une ère philosophiquement et artistiquement inégalée, l'ère de la fraternité et du libertarianisme, quand, en réalité, ce fut un âge de violence, de guerre civile et mondiale, d'inégalité, de répression et de sauvagerie cruelle. Un âge nourri de sang. Du sang des classes laborieuses. Du sang des corps noirs et bruns exploités et vendus et tués pour le progrès. Un âge ensanglanté et honteux, monté sur piédestal dans toutes nos détestables villes, de fiers temples de pierre rendant hommage à cet âge malfaisant qui s'est fait passer pour l'âge des Lumières. Nous y vivons encore, dans son chaos continu. L'industrialisation de l'inégalité continue. Ta torpeur est nécessaire. Ma torpeur est nécessaire. On voit comme ça la longue cohorte des devoirs et des injonctions qui s'accumulent, prenant la forme d'une charge mentale qui diffère pour tout le monde, mais que Quai Tempeste retranscrit à travers une myriade de points de vue différents, parce que son but avoué est de pouvoir parler à tous. Je cite « Je parlerai ici d'écriture, de lecture et de représentation, parce que c'est ce que je connais de vrai. Je parlerai spécifiquement de ces choses, mais en parlant, je parlerai aussi de plus grands thèmes. Qui nous sommes, comment nous vivons, et comment nous pouvons nous ouvrir aux autres. L'empathie, c'est se souvenir que chacun a une histoire, de nombreuses histoires. L'empathie, c'est se souvenir de se laisser l'espace d'entendre l'histoire d'autrui avant d'immédiatement raconter la nôtre. J'aime tellement les gens. À chaque fois que je suis au bord du gouffre, je reviens à la clarté en prêtant volontairement attention aux gens que je rencontre tous les jours. Oui, j'écris pour d'autres comme moi. D'autres à la marge, depuis toujours, inadaptés, des gouines comme moi, d'autres qui se rendent compte qu'il n'y a rien à gagner, même à essayer de s'intégrer, et qui ont finalement dû tracer leur propre voie, d'autres qui n'en ont pas rien à foutre du monde, d'autres qui voient la beauté en premier, puis sont poussés à être témoins du carnage, d'autres qui voient le carnage en premier, puis qui sont poussés à être témoins de la beauté. Mais aussi, j'écris pour ceux qui ont toujours été bien intégrés, pour ceux qui s'en foutent de tout, pour ceux qui n'ont jamais vu la beauté nulle part, et pas même le carnage. Juste un aperçu des choses et du passage du temps. J'écris pour les gens qui partagent mes croyances et pour les gens qui les trouvent carrément ridicules. Pour tout le monde, tout le temps, sans condition. Alors, Quai Tempeste n'appelle pas à la connexion créative sans avoir bien conscience de tout ce qui nous sépare, de toutes les luttes qui nous opposent et reconnaît, je cite, « les sources sociales, historiques, économiques et politiques qui fondent le contexte de nos différences et comment elles influencent nos vies ». Je cite toujours « Je comprends que ce que les humains ont besoin, plus que de la possibilité d'assister à un concert ou à un spectacle, c'est l'accès à un logement abordable, à des conditions de travail sécurisées et équitables, à des soins de santé, d'un accès à de l'eau et de la nourriture en quantité et qualité, et d'un environnement pour l'épanouissement de leur famille qui ne soit ni violent, ni dangereux ou traumatique. Mais je crois aussi que, en plus de toutes ces exigences de base, les humains ont toujours eu besoin, et auront toujours besoin, de jouer, de créer, de se recueillir et de s'épancher. » Alors l'idée, dès l'ouverture du livre, c'est bien évidemment de se défendre d'un idéalisme naïf. Personne n'écoute les bisounours s'ils ne vous démontrent pas auparavant qu'ils ont tout à fait bien perçu la complexité du monde et que leur croyance est fondée sur autre chose qu'un vœu pieux universaliste. Sa croyance en une communalité humaine ne s'appuie donc pas tant sur un espoir candide en une fraternité humaine, mais sur son expérience de 20 ans de scène, 20 ans d'expérience, de créativité et de connexion. Ce livre est donc avant tout l'occasion de partager son histoire avec nous, sa relation à l'écriture, à la prise de parole, ses évolutions. Je cite « au cours du voyage qu'est ma vie, je me suis trouvée face à des gens qui ne pigeaient pas. Avant, je les considérais comme des gens fermés, complètement éteints. J'en ressentais de la frustration. J'étais en colère devant ce manque de conscience. J'étais sûre de pouvoir les faire changer, si seulement j'arrivais à les atteindre, à les toucher. Mais maintenant, heureusement, je pense différemment. Je vois que chaque individu est affecté par la violence de l'existence de façon différente, et que les gens portent leur fardeau comme ils peuvent. Les gens souffrent beaucoup, et il faudrait, idéalement, qu'ils puissent surmonter leur traumatisme pour atteindre une forme de sérénité. Mais, et si ce que tu vis est trop intense et que tu n'arrives déjà pas à respirer? Les réactions des gens sont différentes, les choses auxquelles ils réagissent sont différentes. Qui suis-je pour juger de la manière dont quelqu'un arrive à une conclusion? Qui suis-je pour juger les conclusions auxquelles il arrive? Je ne veux plus changer les gens. Je veux seulement créer une connexion. Il n'est pas question dans ce livre donc de convaincre le lecteur ou la lectrice, mais plutôt de l'emmener sur un chemin sinueux, très personnel, où l'on parle de Carl Jung et de psychologie, des facettes de nos identités, ou de Barbara Ehrenreich et de paléoanthropologie, de coopération, de l'utilité sociale, de l'empathie. Parfois, le livre penche dangereusement vers une forme de développement personnel un peu simpliste, dont les leçons théoriques sont toujours plus faciles à rappeler et moins à appliquer, comme le fait de mentionner que, je cite, « Si vous laissez l'approbation d'autrui vous définir, vous n'aurez pas d'autre choix que de laisser la désapprobation d'autrui vous définir, quand elle arrivera. » Ou le fait de proposer un exercice de l'empathie basé sur, je cite, « une pratique quotidienne de connexion intentionnelle avec l'expérience, l'histoire de quelqu'un d'autre, peut m'offrir le savoir nécessaire pour appréhender un échange sans être dans l'exploitation, la violence ou l'égoïsme. La prochaine fois que je serai sur le point de porter un jugement plein de sévérité sur quelqu'un qui me choque ou me blesse, est-ce que je ne peux pas plutôt m'autoriser à voir l'être humain qui se cache derrière, qui est fait de défauts et de complexité, fait de peines, de pertes, d'ambitions et de déceptions, engagés sur le chemin vers cette île de tous leurs échecs? Et la prochaine fois que je serai sur le point de condamner une personne proche, d'intime, pour m'avoir blessée d'une manière ou d'une autre, est-ce que je peux faire la même chose? Faire d'eux le personnage de leur propre histoire, plutôt qu'un accessoire dans la mienne? Kay Tempest rappelle ainsi, à travers sa propre expérience, l'importance de l'apprentissage par essai-erreur, l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité, de l'effort, du travail sur soi. Alors oui, c'est plein de bons sentiments. Mais comme dit Anatole France dans Les Jardins d'Épicure, les poètes nous aident à aimer. Et c'est ce que fait Kay Tempest, qui nous pousse à aimer nos semblables, à les aimer assez pour tenter de trouver le chemin qui nous relie aux autres, à tous les autres. Trouver le chemin de la connexion à travers le pouvoir de notre inventivité et de notre créativité. Kay Tempest fait partie de ceux qui croient en une part irréductible d'humanité qui nous serait commune à tous. Et d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit sans relation, mais Kay Tempest a annoncé en 2020 sa non-binarité et sa préférence pour le pronom « they », qui est non-genré en anglais. Dernier petit conseil si vous lisez en anglais, faites-vous violence, il fait à peine plus d'une centaine de pages. Bref, si vous le lisez en anglais, de toute façon il n'est pas encore traduit, allez un peu écouter ses albums pour avoir ensuite le plaisir d'entendre son rythme et son accent en lisant le livre. D'ailleurs, on va se faire ça tout de suite en écoutant People's Faces de Kay Tempest.
It's coming to pass. My country's coming apart. The whole thing's becoming such a bumbling farce. Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? Well, here we are, dancing in the rumbling dark. So come a little closer, give me something to grasp. Give me your beautiful, crumbling heart. Another disaster, catharsis. Another half-discarded mirage. Another mask slips. I face off with the physical. My head's ringing from the love of the stars. There is too much pretense here. And too much depends on the fragile wages and extortionate rents here. We're working every dread day that is given us. Feeling like the person people meet really isn't us. Like we're gonna buckle underneath the trouble. Like any minute now the struggle's gonna finish us. And then we smile at all our friends. It's hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel you aching. None of this was written in stone. There is nothing we're forbidden to know. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. I saw it roaring. I felt it clawing at my clothes like a grieving friend. It said there are no new beginnings until everybody sees that the old ways need to end. But it's hard to accept that we're all one and the same flesh, given the rampant divisions between oppressor and oppressed. But we are, though. More empathy, less greed, more respect. All I've got to say has already been said. I mean, you heard it from yourself when you were lying in your bed and couldn't sleep, thinking, couldn't we be doing this differently? I'm listening to every little whisper in the distance, singing hymns. And I can feel things changing. But it's so hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel your heart racing. None of this was written in stone. The current's fast, but the river moves slow. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. It's not enough to imagine we'll be happy when we've got enough stuff. All this stuff is blocking us. I'm neat with no chaser. I'm all spirit, but I'm sinking. Because these days are not days, but strange symptoms. And this age is our age, but our age is rage sinking to beige. And yes, our children are brave, but their mission is vague. Now, I don't have the answers, but there are still things to say. I stare out at my city on another difficult day, and I scream inwardly, when will this change? I'm beginning to fade, but my sanity's saved, 'cause I can see your faces. My sanity's saved, 'cause I can see your faces. Is hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel your heart racing. None of this was written in stone. The current's fast, but the river moves slow. And I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station, 'cause I can see your faces. I love people's faces.